Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, effectivement l'émission de vulgarisation scientifique que vous propose votre radio curieuse tous les samedis entre 12h et 13h. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet, avec la possibilité bien sûr de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Bien évidemment, Biotine, émission de science, émission de musique aussi, on écoutera quelques titres dans cette émission d'une heure à peu près. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour ce samedi 7 février. Alors, le 7 février, au niveau de l'éphéméride, c'est une éphéméride assez récente. Hein. On est à la fin de l'année, la fin du 20e siècle, je vais y arriver, parce que des fois, on remonte un petit peu plus loin dans le temps. Mais là, en 1984, Bruce McCandless réalise la première sortie extravéhiculaire libre au cours de la mission de la navette spatiale Challenger, 1984. Ah oui, Challenger, ça nous rappelle un petit peu, pour certains, des souvenirs, parce qu'on se souvient de l'explosion de cette navette américaine Challenger en 86. Mais là, en 84, il y a eu la première sortie extra-véhiculaire libre au cours d'une mission de cette navette. En 2001, une autre navette spatiale américaine, Atlantis cette fois, décolle pour une mission de 11 jours. Elle est destinée à installer le laboratoire scientifique Destiny sur la station spatiale internationale. En 2001, déjà, on évoquait cette station spatiale internationale. Naissance de John Deere, le 7 février 1804. John Deere, ça nous dit quelque chose, oui, parce qu'il a donné son nom à une entreprise, cet industriel américain qui a mis au point et qui a commercialisé la première charrue à versoir en acier coulé. C'est un progrès technique qui va favoriser les migrations vers les grandes plaines américaines à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Dès 1843, il emporte l'acier d'Angleterre et il crée en 1837 une usine à Paris. John Deere a aussi été le premier ouvrier à assembler des fourches sur des tracteurs. Et donc, bah voilà, le nom de John Deere est encore très contemporain. Il est donc né un 7 février 1804. Décès le 7 février 1938 d'Harvey Samuel Firestone. Tiens, Firestone, là aussi, ça nous dit quelque chose. C'est encore un autre industriel américain, fondateur de la compagnie Firestone, l'un des premiers fabricants mondiaux de pneumatiques. Il va contribuer à l'essor de l'économie nord-américaine du XXe siècle. Il a notamment collaboré avec Thomas Edison. Il y avait énormément de recherches sur le caoutchouc qui ont été menées. Et puis, il a aussi collaboré avec Henry Ford. Donc, Harvey Samuel Firestone est mort le 7 février 1938. Voilà pour cet éphéméride de ce 7 février. Alors, bon, encore pas mal d'actualités qui nous montrent un petit peu qu'on est en train de franchir un pas au niveau des nouvelles technologies de communication et notamment de Google. Les revenus publicitaires, je vais y arriver, je suis désolé, ça va être cette émission va être compliquée, je ne sais pas, je bafouille dès le début, c'est mauvais signe, j'en suis désolé. Les revenus publicitaires des médias classiques sur le web provenaient essentiellement de Google Search ou de Discover. Mais voilà, les temps changent et c'est plutôt brutal, car le temps c'est de l'argent bien sûr, et celui-ci est capturé par une abondance de formats courts sur les réseaux sociaux. Et lorsque l'on se pose une question ou que l'on cherche des actualités, le moteur de recherche est délaissé au profit des synthèses réalisées par les intelligences artificielles. C'est donc un coup dur pour Google et pour les sites d'information. Chez Google, il se passe quelque chose que l'on ne voit pas, mais qui fait trembler les éditeurs de sites web d'information. Une étude menée par Digital Content Next indique que le trafic de référence depuis Google Search a chuté jusqu'à 25% pour de nombreux sites depuis la montée des intelligences artificielles. Dans certains cas, le taux de clic a plongé jusqu'à 61%. Plus globalement, et toujours d'après plusieurs études récentes, eh bien on se rend compte qu'il y a 7 recherches sur 10 qui se terminent désormais sans clic vers un site externe. Pour un média ou une petite entreprise dépendant de ce trafic, eh bien c'est un peu une catastrophe. Alors, est-ce que c'est le début de la fin pour pour le moteur de recherche Google à l'ancienne et son écosystème? C'est un peu une véritable question, une question très actuelle. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise Google structure notre façon de chercher, de consommer et même de penser l'information. À chaque modification de l'algorithme, eh bien, la firme faisait trembler les médias et devait s'adapter aux nouvelles règles ou alors disparaître. Pour tous les éditeurs et notamment ceux qui cherchent à délivrer des informations fiables de façon indépendante et gratuitement, eh bien, il fallait donc rester en permanence sur ses gardes. Mais les temps changent et Google aussi s'est fait piéger par l'arrivée un peu fulgurante de la révolution des intelligences artificielles génératives grand public qui transforme un petit peu la recherche sur le web. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cliquer sur des liens pour obtenir une réponse. Il y a les chatbots qui fournissent directement des synthèses instantanées. Pas de clics, donc pas de revenus pour les médias et le processus va s'accentuer avec des navigateurs dédiés à l'intelligence artificielle et lancés par les acteurs du secteur. C'est notamment le cas avec Perplexity ou l'OpenAI. C'est pratique pour l'utilisateur, mais c'est très problématique pour les sites et les créateurs de contenu qui voient leur trafic et leur visibilité chuter. Et le temps de la recherche pure se rétrécit également. Parce qu'en parallèle, il y a des plateformes comme TikTok, Instagram, qui grignotent attention des internautes. Les contenus courts, les visuels, tout ça, ça va séduire une génération qui zappe d'une vidéo à un poste. Et ça laisse les moteurs classiques derrière elle. On ne cherche plus l'information, on en est inondé et on la consulte de façon un petit peu frénétique. C'est difficile de vérifier, c'est difficile de s'informer face à cette avalanche. Et puis une journée, ça s'imite à 24 heures. C'est difficile aussi de générer des revenus pour les éditeurs dans ces conditions. Et donc Google doit désormais rivaliser non seulement avec la concurrence directe, mais aussi avec cette distraction permanente qui caractérise le web moderne. Alors si ces changements sont difficiles à absorber pour les médias en ligne, la question est, est-ce que c'est la fin de Google pour autant? Alors, Google, quand même assez fort avec sa colossale colonne vertébrale financière, mais la firme a mis les bouchées doubles pour continuer à tenir le pavé, parce que Google a aussi son intelligence artificielle qui s'appelle Gemini, qui est parvenue à remonter la pente, et l'écosystème logiciel avec Android, les applications et l'ensemble des services que tout le monde utilise lui permettra de façonner l'évolution et de se maintenir. En revanche, le moteur de recherche traditionnel tel qu'on l'a connu, eh bien, va certainement mourir à petit feu au profit donc de l'intelligence artificielle de Google qui s'appelle Gemini. Mais le géant d'Internet reste également un vendeur de publicité et pour le rester, il va devoir trouver un moyen via Gemini pour que les éditeurs de contenu puissent percevoir des revenus. Donc cette année, Google ne va pas mourir, mais ne va plus retenir l'attention. Et les plus impactés seront les éditeurs qui vont devoir faire leur propre révolution et trouver d'autres chemins pour attirer cette attention et parvenir à se financer. Cette transition vitale pour certains sera tout l'enjeu de cette année. Donc voilà, le Google que l'on utilise tous les jours semble condamné, ça va évoluer. Et alors peut-être que vous-même, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous utilisez de moins en moins le moteur de recherche, peut-être, et que vous avez de nouvelles pratiques dans votre quotidien. Et bien tout ça a bien sûr des répercussions économiques, bien évidemment, mais effectivement, ça peut avoir des impacts assez importants, bien sûr. Voilà, on démarre donc cette... on voit très bien qu'on est dans une société qui est en perpétuelle évolution, c'est totalement évident, mais au niveau des technologies, ça change aussi, bien sûr. Nous, on reste pour l'instant immuable, on alterne un peu de science et un peu de musique. Bienvenue sur Graphite. We'll be right back. Sundowner, c'était Fontaines DC sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Alors, on voit très bien que ça change au niveau des moteurs de recherche, ça change aussi de plus en plus au niveau de l'intelligence artificielle. En fait, ça fait que 3 ans que il y a eu la première annonce de ChatGPT et l'intelligence artificielle générative est partout. Elle est basée sur des grands modèles de langage. Notamment les chatbots modernes ont beaucoup évolué en peu de temps. Ils intègrent désormais la compréhension de différents médias, les agents qui peuvent mener des actions de manière autonome, et puis aussi plein d'autres fonctionnalités. Et le futur d'intelligence artificielle, selon certains, est la conquête du monde physique. Cette prochaine étape s'appelle Physical AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle matérielle en français. Et il y a de nombreux grands noms du monde de la high-tech qui parient dessus, notamment Jensen Huang, qui est le PDG de Nvidia, qui avait annoncé dès l'année dernière que, je cite, « la prochaine vague d'intelligence artificielle sera l'intelligence artificielle matérielle ». Il expliquait qu'il s'agit que de l'IA qui comprend les lois de la physique, l'IA qui peut travailler parmi nous. Autrement dit, utiliser les robots pour permettre à l'intelligence artificielle d'avoir une présence physique, des robots sous toutes les formes, mais avant tout les robots humanoïdes. Nvidia compte bien faire partie de cette prochaine vague, mais pas en construisant des robots. La firme s'est concentrée plutôt sur leur cerveau et propose un ordinateur compact qui est nommé Jetson Thor, ça coûte $3,500 et c'est un marché qui pourrait devenir très lucratif. Morgan Stanley prédit 1 milliard de robots humanoïdes d'ici 2050, c'est un chiffre qui peut sembler exagéré, mais il y a des vidéos qui, notamment celles publiées par Uptech, qui montrent que la production à grande échelle a déjà commencé. Dans la vidéo, la firme chinoise montre une véritable armée composée de son robot humanoïde Walker S2 pour marquer la première livraison en masse. La firme japonaise Enactic prépare aussi le lancement de robots l'été prochain qui pourront, je cite, vivre aux côtés de personnes dans des environnements très chaotiques où les conditions changent constamment. En fait, ces robots pourraient par exemple assister dans les maisons de retraite, ce qui permettrait de libérer le personnel soignant des tâches épuisantes physiques, comme relever ou déplacer les patients qui n'ont plus de mobilité. Mais pour cela, les robots devront être conçus de manière à ne faire courir aucun cas risque aux humains qui les entourent. On a déjà vu des cas où les robots deviennent fous ou ont des accidents. Et ce ne sont pas les couches textiles de Neo de la firme AX1X qui offriront une protection suffisante aux robots et à son entourage. Ils devront apprendre à naviguer dans le monde réel et effectuer tous les gestes nécessaires aux tâches demandées. Pour cela, rien ne remplace les opérateurs humains. Toutefois, contrairement aux humains, chaque unité n'a pas besoin de tout apprendre de zéro. Les enregistrements et les avancées tirées d'une génération de robots précédente, ça peut servir de base à une génération suivante. Et ils ne peuvent donc que devenir plus performants. La phase actuelle qui s'appuie sur des téléopérateurs n'est donc sans doute que transitoire. Il existe Toutefois, encore un fossé entre les possibilités offertes par les grands modèles de langage et les capacités physiques encore balbutiantes des machines. On avait parlé de la chute du premier robot humanoïde russe récemment. Ça souligne cette différence. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où il y avait un robot russe qui est tombé. Enfin voilà, ils ont voulu montrer un robot humanoïde. Le problème, il s'est cassé la gueule en clair. Et ça a été un peu... alors ils ont essayé de cacher ça d'une façon un peu maladroite avec des espèces de grands rideaux. Enfin, c'était un peu déplorable. Et effectivement, ça montre que c'est pas encore totalement performant. Il y a d'autres robots comme Optimus de Tesla ou Altras de Boston Dynamics qui peuvent arriver à danser, ils peuvent faire des saltos, mais ce sont des actions qui sont contrôlées et les vidéos ont très certainement nécessité plusieurs prises. Donc c'est pas encore clairement opérationnel. Voilà, mais donc on est de plus en plus sur une intelligence artificielle qu'on appelle donc matérielle, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui vont plus être abstraites ou uniquement sous forme d'ordinateur, mais voilà, sur quelque chose qui va pouvoir être physiquement présent à côté de nous. Donc tout comme les algorithmes, puis les chatbots qui s'infiltrent petit à petit dans tous les recoins du monde numérique, ce n'est certainement qu'une question de temps avant que cette intelligence artificielle matérielle et ces avatars robotiques ne s'invitent dans notre quotidien, au travail comme à la maison. C'est un article donc de Futura qui évoquait cela c'était au début du mois de janvier. Je trouvais assez intéressant parce qu'on voit que maintenant on est dans le franchissement d'une nouvelle frontière au cours de cette année. Ça va très très vite, bien évidemment, au niveau de l'intelligence artificielle. Autre sujet, autre thématique qui n'a aucun rapport, on va parler un peu de médecine, avec cette étude qui a été publiée dans la revue Molecular and Cellular Biochemistry. En fait, cette étude, elle suggère que les microplastiques qui sont présents dans de nombreux produits du quotidien peuvent déclencher une inflammation, et des lésions cérébrales. On avait déjà un petit peu évoqué ce sujet il y a quelques semaines, c'est assez récent, je crois que c'était en décembre dernier, mais voilà, il y a de nouvelles études qui un petit peu confirment cela. Selon le professeur Kamal Dua, chercheur en sciences pharmaceutiques et qui a notamment été auteur de cette étude, il nous dit que les adultes consommeraient 250 grammes de microplastique chaque année, soit l'équivalent d'une assiette, quand même assez important. Ces microplastiques sont soit ingérés, soit inhalés. Nous ingérons des microplastiques provenant de sources très diverses, notamment les fruits de mer contaminés, le sel, les aliments transformés, les sachets de thé, les planches à découper en plastique, les boissons en bouteilles plastiques, les aliments cultivés dans des sols contaminés, ainsi que les fibres plastiques des tapis, la poussière, les vêtements synthétiques. Il y a pas mal de sources qui nous entourent, effectivement. Les plastiques les plus utilisés dans les produits que nous consommons sont le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène et le PET, le polyéthylène téréphtalate. Même si la majorité de ces microplastiques sont éliminés de notre organisme, des études montrent qu'ils s'accumulent quand même dans nos organes au fil des années, notamment dans notre cerveau. Le professeur Kamal Dua et d'autres chercheurs de l'université de Sydney en Australie et de l'université d'Auburn aux États-Unis ont travaillé ensemble pour mieux comprendre l'impact de ces substances sur le fonctionnement des cellules cérébrales. Et ils affirment que les microplastiques nuisent au fonctionnement normal du cerveau de 5 façons. En déclenchant l'activité des cellules immunitaires, en générant un espèce de stress oxydatif, en perturbant la surface d'échange entre le sang et le cerveau, en altérant les mitochondries. Alors les mitochondries, c'est dans nos cellules, c'est un petit peu les piles électriques, c'est là où il y a l'énergie dans nos cellules, et bien ça pourrait altérer les mitochondries, et en endommageant également les neurones. Donc selon cette étude, les microplastiques altèrent la barrière entre le sang et le cerveau, et ils rendent cette barrière plus perméable, et conséquence, ces microplastiques se retrouvent donc dans le sang, considérés comme des corps étrangers par l'organisme, et bien... celui-ci active des cellules immunitaires et des molécules inflammatoires pour essayer de les combattre, ce qui endommage davantage les cellules de la barrière, donc une espèce de cycle vicieux qui se met en place. Les microplastiques génèrent par ailleurs ce qu'on appelle donc un stress oxydatif. Ça va augmenter la quantité d'espèces réactives de l'oxygène. En fait, c'est des molécules instables qui sont susceptibles, là aussi, d'endommager nos cellules. Et puis, donc, les chercheurs révèlent que les microplastiques perturbent la production d'énergie par les mitochondries. Ça va donc ralentir un peu le fonctionnement normal de ces cellules. Et donc, dans le cerveau, le fait d'avoir un déficit en énergie a pour effet d'affaiblir l'activité des neurones, ce qui peut à terme causer des lésions cérébrales. Tous ces mécanismes interagissent entre eux, ce qui va aggraver les lésions cérébrales. C'est ce qu'explique donc ce chercheur en sciences pharmaceutiques. Alors, l'étude s'est aussi intéressée aux liens supposés entre ces microplastiques et certaines maladies, comme les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson. Les chercheurs supposent que la présence de microplastiques dans l'organisme pourrait déclencher une accumulation importante de certaines protéines qui sont incriminées dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Concernant Parkinson, eh bien, l'étude indique que les microplastiques pourraient augmenter le risque que la maladie se développe en provoquant des lésions dans les neurones qui sont les neurones dopaminergiques. Donc ce sont ceux qui sont impliqués justement, s'il y a une problématique, c'est eux qui vont être impliqués au niveau de l'apparition de la maladie de Parkinson. Alors, ces hypothèses doivent être creusées, bien sûr, pour établir clairement un lien causalité directe. Mais en fait, face à ces résultats plutôt inquiétants, les chercheurs recommandent aux autorités sanitaires de prendre des mesures pour réduire notre exposition aux microplastiques. Et donc, cette équipe, et donc notamment le responsable de cette étude, explique « Nous devons changer nos habitudes et réduire notre consommation de plastique. Évitons les contenants et les planches à découper en plastique. N'utilisons pas le sèche-linge. Privilégions les fibres naturelles aux fibres synthétiques et consommons moins d'aliments transformés et emballés. » Voilà comment les microplastiques attaquent notre cerveau. Donc c'est un danger invisible. Et là, il y a une alerte par ces chercheurs de ces équipes australiennes et américaines qui ont travaillé sur ce sujet-là. Donc, on avait déjà évoqué les microplastiques dans cette émission. Oui, je pense que ça devait être en décembre, en novembre. C'était assez récent. Et on se rend compte, bien sûr, qu'on est vraiment dans une pollution insidieuse de ces microplastiques que l'on retrouve un peu partout. Et notre environnement, il y a du plastique partout, donc il est évident qu'on en ingère, qu'on en inhale, et que finalement ça se retrouve dans notre cerveau avec des répercussions assez compliqué, assez dramatique, bien évidemment. Donc voilà, il y a une alerte qui est faite ici, et comme c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'études qui met un petit peu en parallèle l'accumulation de microplastiques dans notre corps, et notamment au niveau du cerveau, et l'apparition de certaines maladies, maintenant il va falloir peut-être agir. En tout cas, c'est une prise de conscience qui est proposée ici. Voilà, on va continuer, on va essayer de trouver des articles peut-être un peu plus optimistes, je ne sais pas. On va voir cela et on va continuer à également écouter un peu de musique. Sur l'antenne de Graphite, vous êtes tellement bien. Vous nous écoutez sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net sur Internet.
These old tales, these bold stories of greatness, the glory of old pals, having their naughtiest of straighteners, and how we mobbed through the old town, and did it all for a bit of status, living faster than the speed of sound. That's how our mate Tom met his maker.
And if I ever chose to settle for it, let's huckle over and a dice over. Sometimes I miss me grand to spend the time I had to staring at her in the photos. And if I had a time machine, I'd go back to a kitchen peeling her potatoes. Couldn't wait to be a man when I should have been enjoying the time I thought I'd gained.
Now it's bursting at the seams, trying to get through the door. Nostalgia my own. And it's had me from a team, trying to witness me fall. Nostalgia is gone. From a team, turbulent behaviors on repeat. Every situation that I meet leaves me feeling like I'm Mr. Bean. If I took you to the IOD, not your last as far as I can see. Infinite is drunk and litanies, stories are the greatest victories. And if I ever chose to settle for, let's suck it over and a dice over. And there may not be no longevity.
cheating it, but it is me until it's over. I see they learn my lessons ever since they put the handcuffs on me in the Rover. Couldn't wait to be a man when I should have been enjoying the time that God had gave us.
Now it's bursting at the seams, trying to get through the door. Nostalgia on my own. I just had me from a team, trying to witness me fall. Nostalgia is gone. And I miss it all, I did it all. Miss it all at the wall. And I've been a school, I've been a fool. These memories are visceral. And they're hurting through the seams, trying to get through the door. Nostalgia must go.
Vast acres of me, sipping lukewarm pleasantries from a bottomless jug. The flickering of petty people's eyes upon the prize of doughy-chested men. We live another day. The past is your fucking lord. I bow to you.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Nostalgia Def, c'était Hack Baker sur l'antenne de Graphite. J'étais en train. Voilà, j'ai pas réagi tout de suite, j'ai pas vu que c'était la fin du titre, désolé, parce que j'étais en train de sélectionner des petites brèves assez intéressantes, et puis peut-être un petit peu plutôt optimistes, on va dire. Alors, premièrement, et puis aussi un petit peu des animaux, parce que là, on n'en parle pas du tout d'animaux depuis plusieurs semaines dans cette émission, et j'ai retrouvé deux petits articles assez intéressants. Alors, le premier, concernant encore notre cerveau, et pour pouvoir le protéger du vieillissement, parce qu'on sait très bien qu'avec l'âge, le cerveau subit des modifications structurelles, l'apparition de lésions de la substance blanche qui est souvent associée au déclin cognitif et à des maladies comme la démence. Et bien que l'alimentation puisse influencer ces processus, il y a certaines boissons comme le thé vert qui attirent l'attention des chercheurs pour leurs bienfaits potentiels sur la santé cérébrale. Il y a une étude récente japonaise qui a été publiée dans la revue Nature qui a révélé des liens prometteurs entre la consommation régulière de thé vert et une réduction de ces lésions. Le thé vert, qui est consommé régulièrement, contient des catéchines ou des catéchines d'ailleurs, j'ai un doute, hein, on va dire catéchines. Ce sont des composés antioxydants aux propriétés anti-inflammatoires. Et ces molécules, elles agissent directement sur les cerveaux sanguins et les cellules nerveuses, qui va contribuer à limiter les dommages causés par le stress oxydatif. Donc, dans l'étude menée au Japon, les participants qui buvaient au moins 3 tasses de thé vert par jour présentaient une diminution notable des lésions de la substance blanche par rapport à ceux qui en consomment moins. Cette réduction pourrait s'expliquer par l'effet du thé vert sur la pression artérielle et la circulation sanguine. En abaissant justement les tensions artérielles élevées, eh bien, le thé vert favoriserait une meilleure irrigation cérébrale, ce qui limite ainsi les risques d'apparition de ces micro-lésions. Si les lésions de la substance blanche sont souvent perçues comme des marqueurs précoces de la démence, eh bien, leur réduction peut représenter un levier pour préserver les fonctions cognitives. Bien que les résultats soient encore préliminaires, ils ouvrent en fait la voie à de nouvelles stratégies de prévention basées sur des habitudes simples, comme donc l'intégration du thé vert dans le quotidien. Cependant, ces bienfaits s'observent principalement chez des individus sans facteur de risque majeur, par exemple une prédisposition génétique spécifique ou alors une dépression. Cela souligne l'importance d'une approche globale pour protéger son cerveau, qui va combiner une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un suivi médical adapté, bien évidemment. En conclusion de cet article, le thé vert pourrait être un allié précieux pour maintenir une bonne santé cérébrale. Toutefois, il y a quand même d'autres études qui sont nécessaires pour confirmer ces observations et affiner, bien sûr, les recommandations. Mais voilà, c'est pas la première fois qu'on parle quand même du thé vert dans cette émission. On voit de plus en plus d'études qui confirmeraient ces bienfaits. Autre article assez intéressant qui nous vient d'une étude de l'Association américaine de psychologie qui explique que lâcher un gros mot dans un moment de frustration peut procurer une sensation de soulagement. Jurer, en fait, pourrait également améliorer nos performances. Dans de nombreuses situations, les gens se retiennent consciemment ou inconsciemment, d'utiliser toutes leurs forces, c'est ce qu'explique le docteur Richard Stephens du département de psychologie de l'université de Kiel au Royaume-Uni. Selon lui, jurer serait un moyen facile pour se sentir plus concentré, plus confiant et moins distrait, et pour oser davantage. Ce même docteur avait déjà montré dans des expériences consistant à laisser la main dans une eau glacée le plus longtemps possible, que lorsque les gens jurent, leur performance s'améliore. Alors pour répondre, l'équipe a donc mené un travail auprès de 200 personnes. Il leur a été demandé d'effectuer des pompes et pour s'encourager, les participants pouvaient soit prononcer des jurons, soit des mots un peu plus neutres. Et après l'exercice, les participants ont répondu à des questions sur leur état mental pendant la tâche, les émotions positives qu'ils avaient ressenties, le niveau de distraction et la confiance en soi. Et les chercheurs ont alors constaté que ceux qui juraient, donc qui disaient des gros mots pendant l'exercice, parvenaient à tenir plus longtemps. En jurant, on se libère des contraintes sociales et on se permet d'aller plus loin dans différentes situations. Jurer est littéralement un outil sans drogue, peu coûteux et facilement accessible à notre disposition lorsque nous avons besoin d'un coup de pouce. Donc voilà, dites des gros mots, ce serait bon apparemment, pour d'après la science en tout cas. Ça apporterait une sensation de soulagement. Ok, on l'aura quand même tout entendu et tout lu dans cette émission. Deux articles concernant les animaux. Le premier, c'est le bourdon. Alors, je crois qu'on n'a jamais parlé du bourdon dans cette émission. Eh bien, il fallait une première, c'est donc aujourd'hui. Des chercheurs de l'université Queen Mary de Londres ont appris à un bourdon qui s'appelle Bombus terrestris à distinguer des signaux lumineux longs et courts afin de repérer une récompense sucrée. Selon les essais, les impulsions duraient 5 secondes contre 1 seconde. Donc ça, c'était le premier essai. Ou alors, il y avait d'autres essais qui avaient été menés et chaque durée était associée soit à du sucre, soit à une solution de quinine qu'ils n'aiment pas du tout. Et donc, ils ont compris, en fait, selon les signaux, s'ils avaient droit à une récompense ou à quelque chose qui était un petit peu dégueulasse. Et après avoir atteint un seuil de 15 bonnes réponses sur 20, eh bien, les bourdons ont été testés sans aucune récompense. C'est-à-dire que même quand ils étaient privés de sucre, eh bien, ils choisissaient plus souvent que le hasard, on va dire, la durée qui était gagnante. Et c'est un peu une preuve qu'ils arrivent à distinguer réellement les éclairs de lumière courts et longs. Les bourdons qui ne rencontrent pas de signaux clignotants dans la nature, normalement non, ne sont pas confrontés à ça. Et donc cette performance, elle étonne un peu les chercheurs. Elle pourrait découler d'un traitement temporel lié au suivi des mouvements ou de propriétés fondamentales des neurones. Donc là, on a peut-être découvert des choses assez intéressantes sur les bourdons. Cette étude qui a été publiée dans la revue Biology Letters rappelle combien des processus cognitifs complexes peuvent émerger dans un cerveau de la taille d'une graine de pavot. Évidemment, le bourdon n'a pas un cerveau développé comme le nôtre, on va dire, mais en tout cas, il serait capable de lire une forme de code morse un peu, parce qu'avec ses signaux courts et ses signaux longs, eh bien, ça révèle avec cette expérience une aptitude cognitive totalement inattendue chez ces insectes. Voilà, ils ont réussi ce test surprenant. Il y a des vidéos, je crois, que vous pouvez voir sur Internet, justement, pour essayer de voir un petit peu cette expérience qui a été menée. Et enfin, un article cette fois sur les dauphins, et notamment le globicéphale tropical, qui est l'un des rares dauphins à plonger à de grandes profondeurs, jusqu'à plus de 1000 mètres à peu près. Et ça le met en danger parce que plonger aussi profondément, ça rend l'animal plus vulnérable aux perturbations d'origine humaine, au bruit des bateaux ou au changement de température des eaux. Alors pourquoi prend-il ce risque? Eh bien pour comprendre ce comportement étonnant de la population de ces globicéphales à nageoires courtes, on est au large d'Hawaï, et bien des chercheurs de l'université de biologie marine des États-Unis ont plongé avec eux, enfin en quelque sorte. Les chercheurs racontent dans la revue The Journal of Experimental Biology, ils racontent comment ils ont suivi les aventures de 8 dauphins équipé de balises et de caméras. Une première tout simplement incroyable, dit-il, dans les profondeurs obscures de l'océan. L'objectif, en fait, c'était de comprendre combien d'énergie le dauphin dépense en plongeant pour aller trouver sa proie préférée, qui est le calmar. En effet, si le dauphin venait, à cause des pressions anthropiques nouvelles, à consommer plus d'énergie qu'il en trouve au fond de l'océan, sa santé pourrait en pâtir, et avec elle, ses capacités de reproduction notamment. Et donc, sur la base des données qui ont été recueillies et à partir d'un modèle que les chercheurs ont spécialement développé, ils ont établi qu'un dauphin, le globicéphale tropical adulte, consomme environ 4 calmars par plongée profonde. Pour une moyenne donc d'environ 142 calmars engloutis par jour pour couvrir ses besoins énergétiques. Il en mange quand même pas mal. Et si on extrapole à l'ensemble de la population hawaïenne, où on considère qu'à peu près 8000 dauphins, cela ferait environ 416 millions de calmars consommés par an. Ah ouais, ils en bouffent pas mal, hein, parce que le temps passé en profondeur est presque deux fois plus consommateur d'énergie que le temps passé en surface. C'est assez étonnant. L'information pourrait s'avérer précieuse pour évaluer enfin le statut accordé justement à ce dauphin. Pour l'heure, même si ces populations semblent assez importantes, l'Union internationale pour la conservation de la nature reste prudente, parce que jusqu'ici, le manque d'informations empêchait en effet les chercheurs de bien évaluer un petit peu le risque d'extinction de cette espèce en particulier. Mais les résultats obtenus par l'équipe, donc justement de l'Institut de biologie marine d'Hawaï, semblent aller dans le sens de globicéphales à nageoires courtes se portant relativement bien grâce à une source de nourriture abondante et fiable. Tu m'étonnes, s'il mange 416 millions de calmars par an, c'est qu'il doit avoir une... je sais pas, une... comment dire, une réserve de calmars que, totalement insoupçonnée. En tout cas, voilà, ces dauphins répètent chaque jour en profondeur. Ils y vont plusieurs fois en profondeur pour pouvoir récupérer ces calmars. Et on a essayé un petit peu avec des balises et des caméras de mieux comprendre leur comportement. C'est toujours intéressant. On n'a pas trop parlé des animaux récemment. C'était chose réparée désormais. Allez, encore un peu de musique. Et puis, on va continuer à feuilleter ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. Tiens, on utilise des haut-parleurs pour pouvoir polliniser les fleurs de tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit ça juste après le titre de Ismaël Ensemble.
Fall out of love.
Grounded, c'était Ishmael ensemble sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Alors, des petites brèves qu'on peut lire dans Science et Découverte. J'ai un blanc total. Oui, je crois que c'est Science. Science et Avenir, pardon, excusez-moi, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est Science et Avenir, qui est aussi une revue scientifique de vulgarisation scientifique vraiment intéressante, parce qu'il y a des sujets de fond, puis il y a aussi quelques petites brèves qui sont illustrées, assez intéressantes, et notamment cette étude qui nous vient de l'université occidentale de Sydney en Australie. Ils se sont inspirés par le bruit des ailes des bourdons qui provoquent la libération du pollen des plantes tomates. Et bien, des chercheurs ont eu l'idée de remplacer cet insecte par des haut-parleurs. Et donc, ils ont diffusé un son proche des ultrasons de 10 000 Hz, donc proche du bruit des ailes des bourdons. Et ils ont pu induire une libération du pollen encore plus efficace. Et ils ont même obtenu des tomates nettement plus grosses. Voilà, ils ont en fait libéré ce pollen avec ces vibrations. D'un autre côté, concernant les ultrasons, cette fois, même dans le désert, il y a de l'humidité dans l'air. Et bien, une équipe, cette fois américaine, qui a mis au point un dispositif à ultrasons qui est formé d'un anneau céramique vibrant. Et en fait, ça peut produire de l'eau potable à partir de l'atmosphère en quelques minutes seulement, au lieu de plusieurs heures avec les systèmes actuels. Ce système est alimenté par une petite cellule solaire qui sert également de capteur pour détecter la saturation du matériau éponge auquel il est couplé. Donc c'est assez intéressant. En médecine, il y a l'université de Glasgow au Royaume-Uni qui travaille à la mise au point d'un soutien-gorge intelligent qui s'appelle Smart Bra, qui est constitué d'un textile qui va intégrer un faible courant électrique avec une technique qu'on appelle la tomographie par impédance électrique. L'objectif de tout ça, en fait, ce serait de dépister en fonction de leur conductivité des tumeurs mammaires souvent plus denses que les tissus humains. Ce projet a été développé pour des femmes avec des déficiences intellectuelles souvent exclues des dépistages, et donc ce soutien-gorge intelligent pourrait donc dépister le cancer du sein. Enfin, en pédiatrie, à 6 mois, les bébés dont les mères produisaient le plus de cortisol, qui est l'hormone du stress, durant la grossesse, ont en moyenne 4 dents de plus que ceux des mères qui en produisaient le moins. C'est ce que montre une étude à partir du suivi de 142 femmes. En fait, le cortisol influencerait en effet, avant même la naissance, la façon dont le fœtus utilise le calcium et la vitamine D impliqués dans la formation des dents. Donc ça, voilà, c'est des petites brèves que l'on peut avoir dans Science et Avenir. On apprend aussi, parce qu'il y a des pages liées plutôt à l'histoire et à l'évolution, nous nous embrassions sur la bouche bien avant d'être même des humains. C'est ce qu'estiment des chercheurs de Londres qui ont établi par le biais d'une analyse statistique que ce contact bouche à bouche n'impliquant pas de transfert de nourriture était déjà une pratique courante il y a 21 millions d'années chez les grands singes ancêtres justement de la lignée des Homo. Et donc voilà, on s'embrasserait sur la bouche avant même, enfin le baiser serait plus vieux que notre espèce, nous dit-on. C'est quand même assez... voilà, découverte assez intéressante. Et puis, enfin, deux choses concernant cette fois la technologie. Alors, la première, c'est 95 000 personnes qui ont été trompées. Hein, c'est le nombre d'internautes qui ont suivi en octobre dernier une fausse conférence d'un deepfake du PDG de Nvidia. Le faux dirigeant inventait une escroquerie à la crypto-monnaie. En guise de comparaison, au même moment, une intervention du vrai PDG de Nvidia lors de l'événement. Un événement était regardé par 12 000 internautes, donc il y en avait 95 000 qui regardaient le mauvais dans un deepfake. C'est vrai que c'est assez... En fait, c'est assez bien fait quelque part, donc c'est quelque part assez effrayant. Enfin, on a aussi ces lunettes qui ont été fabriquées. Alors, ça a été fondé par des anciens d'Oculus. Oculus, c'est le fabricant du casque de réalité virtuelle. Eh bien, une start-up américaine qui s'appelle Sesame Eye qui développe des modèles vocaux destinés à être intégrés dans des lunettes connectées. En fait, l'utilisateur, il interagit avec ses compagnons numériques en langage naturel. Il y a deux intelligences artificielles qui sont d'ores et déjà accessibles sur inscription sur le site de cette société. société qui s'appelle donc Sésame. Et il s'agit d'applications pour le système, notamment des appareils mobiles d'Apple. Donc voilà, il y a un assistant vocal personnel qui est intégré dans des lunettes. Et donc vous avez quelque part le son et l'image, apparemment. C'est... Mais pourquoi pas, hein, ça peut être utile, hein, après tout. Alors on écoute un dernier titre et puis on terminera cette émission avec encore un autre article scientifique. Vous êtes bien sur Biotine et vous nous écoutez sur Graphite, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, bien sûr, avec la rediffusion à 10h, bien sûr, le mardi matin, si vous êtes fidèle de cette émission, et c'est tant mieux. Allez, un dernier titre avant de nous dire bientôt au revoir. Qu'est-ce que c'est sympa, Itsumo Nando Demo. C'était Pomme sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Et puis on va terminer cette émission avec Le masculinisme, je trouvais cet article de Futura assez intéressant. Ils ont voulu essayer d'en savoir plus sur ce phénomène et notamment l'explosion du mot masculinisme sur les réseaux sociaux. Ils ont notamment posé des questions à une psychanalyste qui décrypte un petit peu ce mouvement qui intrigue autant qu'il inquiète. Si le site du dictionnaire Le Robert a vu son audience augmenter ces derniers mois, c'est en partie grâce au terme masculinisme, dont la consultation a augmenté de 800% en un an. Cette augmentation a certainement été influencée par la série Adolescence, qui est disponible sur Netflix, qui suit un adolescent de 13 ans accusé de meurtre. Mais pas seulement, en fait. Elle traduit aussi l'attrait grandissant pour les jeunes hommes de ce mouvement viriliste. Pour Le Robert, donc, le masculinisme, c'est un ensemble de revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la société au détriment de ceux des femmes. C'est la définition du Robert. Il s'agit donc clairement d'une idéologie anti-féministe. C'est apparu dans les années 70 aux États-Unis et en Europe et ce terme devient populaire à partir des années 2000 avec notamment les d'Internet et de plus en plus récemment avec les réseaux sociaux. Le masculinisme prend la forme de vidéos ou de podcasts animés par des jeunes hommes qui incitent et invitent d'autres hommes à se former à des méthodes de séduction virile avec une dominance assumée de la masculinité. Ces contenus parlent aussi de sport, surtout de musculation, et des femmes, et ça parle tout ça de manière violente et dégradante, les femmes que l'on accuse d'avoir pris trop de place et de pouvoir dans la société. Le masculinisme a changé de visage. Il y a encore une quinzaine d'années, il était moins virulent et concernait surtout des hommes mûrs. C'était souvent des pères divorcés en colère contre les institutions. Mais aujourd'hui, le cœur battant de ce mouvement, ce sont bien les 15-25 ans. C'est ce que constate Frédéric Corzine, psychanalyste. Alors pourquoi un tel glissement ? Eh bien, pour elle, cela est lié à la période de l'adolescence durant laquelle les jeunes se cherchent et se construisent. Une période déjà pas facile, mais qui en plus se fait dans un monde secoué de toutes parts. Alors, elle explique, ils grandissent dans l'après MeToo, dans un monde où les codes traditionnels ont explosé, fluidité des genres, visibilité accrue des communautés LGBT, affirmation des transidentités, c'est vertigineux, c'est ce qu'elle explique, Frédéric Corzine. Et donc, dans ce contexte, certains jeunes hommes se demandent s'ils ont encore leur place dans la société. Ils se posent des questions, ils ont des doutes, et ils pensent trouver les réponses dans le masculinisme numérique qui les rassure avec des messages flatteurs. Laisse tomber ce chaos, tu n'as pas à t'excuser, tu es un homme, un vrai, c'est biologique et c'est stable. C'est ce qu'elle elle explique. Et donc, l'autre particularité de cette idéologie, elle vient aux jeunes hommes sans qu'ils la cherchent. Techniquement, il est presque impossible de passer à côté des contenus masculinistes quand on est jeune, quand on est un jeune qui utilise les réseaux sociaux. On assiste à un espèce de phénomène d'entonnoir algorithmique, explique-t-elle. Un jeune homme de 16 ans cherche des conseils de musculation, de confiance en soi ou comment faire de l'argent. C'est la porte d'entrée. L'algorithme qui est conçu pour capter l'attention va glisser doucement vers des contenus plus radicaux. On passe du sport pour être en forme à un sport pour dominer, puis très vite à des influenceurs qui expliquent que si tu es malheureux, c'est la faute des femmes ou c'est la faute du système. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'attrait des jeunes hommes pour le masculinisme n'est pas guidé par un excès de confiance, mais plutôt par une fragilité psychologique. Des mécanismes inconscients seraient à l'œuvre, selon la psychanalyste. Le point de départ serait la perte des repères traditionnels. Les modèles familiaux ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Si le modèle traditionnel, entre guillemets, existe encore, c'est-à-dire un père, une mère et des enfants, il y a d'autres modèles qui sont venus s'ajouter, des familles décomposées, recomposées, monoparentales, homoparentales, donc des modèles dans lesquels la figure paternelle peut être absente ou fragilisée. Alors, on peut se demander si les jeunes attirés par le masculinisme ne cherchent pas un cadre strict, ne cherchent pas des règles. Et donc, la psychanalyste explique, les influenceurs masculinistes du type Andrew Tate jouent ce rôle de sergent instructeur ou de père sévère de substitution. Ils offrent une discipline quasi militaire qui comble un vide éducatif et symbolique. Alors, la transidentité, le mariage pour tous, la PMA pour toutes les femmes, les mœurs évoluent. Et certains jeunes hommes pensent que ces évolutions de la société constituent une menace inconsciente de leur virilité. Et donc les discours masculinistes viennent les rassurer en valorisant un retour à une vision très patriarcale et archaïque. L'homme chasse, la femme garde le foyer. C'est une régression rassurante face à la complexité du monde moderne. Enfin, ce qui peut expliquer cette forte adhésion des jeunes hommes pour le masculinisme est la reconnaissance de leur douleur et de leur souffrance. Et c'est sans doute le facteur le plus important pour expliquer le succès de cette idéologie. Frédéric Corzine, elle explique « Les influenceurs masculinistes affirment être les seuls à écouter et entendre le mal-être des hommes dans cette société post-MeToo. Ils transforment la mélancolie d'une jeunesse perdue en colère mobilisatrice. » Alors, en plus d'être une menace pour l'égalité et la justice sociale, le masculinisme est une idéologie qui peut pousser à commettre des actes violents envers les femmes, pouvant aller jusqu'au féminicide, qui est notamment un problème qui a été soulevé par cette série sur Netflix Adolescence. Donc, pour la psychanalyste Frédéric Corzine, le meilleur moyen de sortir de ce mouvement toxique n'est pas de pointer du doigt ses adeptes, mais de les écouter et surtout de déconstruire le mythe du mâle alpha. Il faut essayer de comprendre pourquoi un homme peut se sentir perdu aujourd'hui et montrer que la vraie force n'est pas d'être une caricature de Rambo, mais d'accepter la complexité du monde actuel. C'est ce que propose la psychanalyste. Les masculinistes sont en guerre contre la menace féminine. Mais ils se trompent de combat. Cette menace n'est qu'un fantasme. S'ils étaient un peu plus dans la vraie vie et moins dans le virtuel, donc moins dans les réseaux sociaux, ils verraient que leurs motivations sont dénuées de sens. Il faut réintroduire du réel, encourager les liens concrets, le sport collectif, les amitiés mixtes. C'est en fréquentant les autres personnes, donc en l'occurrence ici les femmes, les personnes LGBT, ainsi de suite, que le fantasme de la menace s'effondre. C'est ce que explique l'experte Frédéric Corzine. Donc je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet parce que voilà, ça c'est donc un article de Futura Science sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui va être de plus en plus aussi, analysé, étudié par notamment par la recherche en sociologie et donc là en psychanalyse également. Donc voilà, c'était un sujet que je trouvais intéressant, qu'on n'avait jamais abordé dans cette émission, mais il fallait bien sûr un début à tout. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Et puis on se retrouve samedi prochain, bien sûr, pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.